Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, chers enfants, nous sommes facilement déconcertés, voire scandalisés par les événements qui pourtant tous sont soumis à la divine providence. Nous avons du mal à comprendre le pouvoir que Dieu donne à ses ennemis. En ce jour de l'Épiphanie, nous voyons le méchant Hérode utiliser son pouvoir pour faire massacrer des centaines d'enfants innocents. Il nous semble aussi que le bon Dieu ne se préoccupe pas beaucoup de ses intérêts. Il a préparé pendant plus de 4000 ans la venue de son Fils sur la terre. Il a envoyé des dizaines de prophètes. Il a fondé une nation, la nation juive, pour l'accueillir. Mais le résultat nous semble bien décevant. In propria venit, et sui eum non receperunt. Il n'y a pas même eu une place pour lui à l'hôtellerie du village. Si nous voulons comprendre un peu ces mystères de la providence, ne pas nous laisser aller aux murmures, au découragement, voire à la perte de la foi, comme hélas cela s'est souvent produit, il faut commencer par suivre ce conseil de Saint Léon. Que se tiennent loin de nous les nuages obscurs des raisons de cette terre, terrenarum cadigo rationum, et que les fumées de la sagesse de ce monde restent à distance des yeux illuminés de notre foi. Et ab illuminate fidei oculis, mundane sapientiae fumus abscedat. Pardonnez-moi de citer le latin, mais le style de Saint Léon est si magnifique. Et Saint Léon en donne aussitôt la raison. Divina est enim auctoritas cui credimus. Divina est doctrina quam sequimur. Divine est l'autorité en laquelle nous croyons. Divine est la doctrine que nous suivons. Si les plans de Dieu nous déroutent et parfois nous scandalisent, c'est que Dieu est Dieu. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Dieu est une intelligence infinie et il se sert de cette intelligence pour prévoir le plan le meilleur, pour sauver le plus d'âmes possible, pour sanctifier le plus possible les saints et pour laisser aux méchants un certain pouvoir pour qu'ils aient leur récompense au moins sur cette terre et pour qu'ils sanctifient malgré eux les saints. Essayons donc de voir comment resplendit la sagesse divine, bien plus élevée et plus belle que notre petite sagesse, dans le mystère de Noël et dans celui de l'Épiphanie. Qui se souvient de la naissance d'Alexandre le Grand, le plus grand des conquérants de cette terre, en cette terre. Et si la naissance de Louis XIV, surnommé Dieu donné, fut célébrée avec joie dans toute la France, aujourd'hui, il n'en est plus question que dans des livres d'histoire. On ne se souvient même pas de la date. En revanche, partout dans le monde entier, on a fait des crèches, dans les maisons, dans les lieux publics. Au point qu'en France, que la franc-maçonnerie s'évertue de déchristianiser depuis plus de 2 siècles, il faut des ordres du gouvernement au service de la secte pour faire interdire les crèches dans les lieux publics. Le bon Dieu a donc bien organisé les choses pour la naissance de son Fils. Il a prévu un recensement pour faire voyager la Sainte Famille à Bethléem. Il a prévu le refus de l'hôtelier, la grotte, la crèche, l'âne et le bœuf, les anges et les bergers. Tout cela a tissé une scène d'une poésie incomparable, riche d'enseignements pour nous, qui laissera une trace impérissable dans l'histoire des hommes. Mais voyons plus spécialement l'action de la Providence dans les mystères de l'Épiphanie. Les mages voient une nouvelle étoile, insolite. Ils essayent de comprendre ce que cela signifie. Ils se souviennent que le mage Balaam, 1300 ans plus tôt, avait annoncé qu'une étoile serait le signe de la venue du Messie. Une étoile sortira de Jacob, avait-il dit. Un sceptre s'élèvera d'Israël et il frappera les chefs de Moab. Jacob, aussi appelé Israël, est l'ancêtre du peuple juif. Une étoile sortira de Jacob signifie que le Messie sortira du peuple juif. Un sceptre s'élèvera d'Israël signifie qu'il sera roi. Il frappera les chefs de Moab, signifie qu'il frappera les ennemis de Dieu, c'est-à-dire les démons. Comprenant donc que cette étoile désignait le Messie, le futur roi des Juifs, les mages décident d'aller à Jérusalem, la capitale, la ville royale, où normalement devait se trouver le roi d'Israël. En faisant cela, ils ne suivent que leur raison, et donc ils se trompent. Cette erreur va avoir de graves conséquences, mais elle n'est pas coupable. Et Dieu a prévu d'utiliser cette erreur et ses conséquences pour accomplir son plan. Ils viennent donc à Jérusalem et demandent où se trouve le roi des Juifs qui vient de naître. Cette question provoque la méfiance d'Hérode, qui précisément régnait sur la Judée, tout en n'étant pas un roi légitime, puisqu'il n'était pas un descendant de David, pas même un juif. Il s'ensuit l'histoire que nous connaissons bien. D'abord, le roi Hérode donne aux mages une information capitale. Le Messie doit naître à Bethléem de Juda. Tout en étant un usurpateur, Hérode était bien assis sur le trône de David. Il avait donc l'autorité pour répondre. Autorité peut-être usurpée, mais bien réelle. Les rois mages sortent de Jérusalem et ils revoient l'étoile, ce qui leur cause une grande joie. Dieu intervient donc de nouveau, car ils sont sortis de la société des méchants. Celui qui accordait ce signe à ses observateurs du ciel, dit saint Léon, leur en donna aussi l'intelligence. Ce qu'il fit comprendre, il le fit chercher. Et une fois cherché, il se laissa trouver. Remarquons bien les trois étapes de cette quête du Christ. Quod fecit intelligi, fecit inquiri. Et se inveniendum, obtulit inquisitus. L'attention est éveillée par la vue de l'étoile. Le désir est suscité. Enfin, l'attente est comblée. C'est toujours ainsi que le bon Dieu procède pour nous le faire trouver. Il éveille notre attention. Et si nous faisons l'effort de comprendre ce qu'il nous indique, alors il suscite le désir. Il faut encore que nous cherchions à combler ce désir, que nous fassions un effort. Et alors Dieu se manifeste à nous. Il nous donne ce qu'il voulait nous donner. Dieu prend l'initiative, mais il faut que nous collaborions en cherchant à comprendre, travail de l'intelligence, puis en désirant et en travaillant à réaliser le désir, travail de la volonté. Enfin, nous recevons la récompense. Et d'étape en étape, on finit par arriver où se trouve Jésus et on peut lui offrir nos hommages. Mais si les rois mages sont comblés, la suite de l'histoire est beaucoup plus dramatique. Les rois mages repartent par un autre chemin, suivant l'indication reçue en songe, ce qui provoque la colère d'Hérode et finalement le massacre des saints innocents. Au sujet de cette méchante action d'Hérode, saint Léon fait cette réflexion. Heureux eût-il été s'il avait imité la foi des mages, s'il avait mis au service de la religion les plans qu'il élaborait au service de la ruse. Comme Félix Faurette, si magorum imitaretur fidem, et converteret ad religionem, quod disponebat ad fraudem. Si c'était nous qui avions organisé l'histoire, nous aurions probablement arrangé le scénario différemment pour que les petits-enfants ne se fassent pas massacrer. Faut-il dire que la providence de Dieu est cruelle? Certainement pas. Mais la providence est le plan que Dieu prévoit pour le salut du plus grand nombre, pour la sanctification maximale des justes, et pour que même les méchants contribuent à ce but du salut des élus, tout en ne faisant pas tout le mal qu'ils aimeraient faire. Les saints innocents sont les premiers martyrs de l'ère chrétienne. Ils forment au ciel, autour du trône de Jésus, une cour magnifique. Les pauvres mères des saints innocents ont bien souffert, mais leur souffrance, ajoutée à la prière de leurs saints enfants, les ont aidés à se sanctifier. La seule personne à plaindre dans cette histoire, c'est Hérode. Pour lui, la seule utilité qu'on peut voir dans la réalisation de son funeste dessein, c'est que l'énormité de son crime, la réprobation universelle qu'il a suscitée, a pu diminuer quelque peu sa méchanceté. Tâchons de tirer quelques conclusions sur l'attitude que nous devons avoir pour bien suivre la Providence sans nous laisser décontenancer ou troubler par ce qui peut nous choquer. La première chose à faire, c'est d'être attentif aux signes du bon Dieu. Les mages ont regardé et étudier l'étoile. Saint Joseph a été attentif à l'avertissement de l'ange venant lui dire de fuir en Égypte. Il faut ensuite comprendre les signes de la Providence. Cela demande notamment une bonne connaissance de la religion. Les mages ont compris le signe de l'étoile parce qu'il connaissait la prophétie de Balaam. Saint Joseph a compris ce que disait l'ange, parce qu'il savait que l'Écriture avait prévu le passage du Messie en Égypte. Il faut enfin mettre en pratique ce que nous comprenons devoir faire, ce qui souvent demandera un sacrifice. Pour Saint Joseph, notamment, ce fut certainement un sacrifice de se lever en pleine nuit pour réveiller la Sainte Vierge et partir sans délai. Et pour les rois mages, ce voyage si long leur coûta aussi sûrement bien des peines. Demandons à Notre-Dame, qui regarde tous ces événements et les conserve dans son cœur, qu'elle nous apprenne à accepter et suivre les plans de la Providence pour le bien de nos âmes, pour la joie du cœur immaculé de Marie et du Saint-Enfant Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.